Les connus face à l'inconnu, tous les mercredis de 12h à 13h avec Yves Cara.
Bonjour à toutes et à tous, c'est toujours un excellent plaisir, un grand bonheur de vous retrouver pour cette émission. Les connus face à l'inconnu, tout est dans le titre. J'invite une personnalité connue pour parler de sa vie, de son œuvre, de ses projets, de son actualité aussi. Et puis de tous les sujets inconnus des autres médias qu'on n'aborde jamais. Bah, ici, on prend le temps d'aller fouiller un petit peu dans leur âme, dans leur cœur et dans leur cerveau. Et je peux vous le dire, ils le font avec grand plaisir parce qu'une fois que les micros sont éteints, ça se passe très très bien autour d'un café. Ils sont très contents de cette émission et vous aussi apparemment avec tous les messages de félicitations qu'on a sur Facebook. Donc ça nous encourage encore plus à travailler, que ce soit Mathieu, moi, François, Demi et Bob. On est avec vous et on bosse et c'est un vrai plaisir. C'est d'ailleurs pas tout à fait du travail, c'est un partage. Alors aujourd'hui, invité, et quel bonheur de vous avoir en face de moi, Armande Altaï. Bonjour.
Bonjour Yves.
Comment taillez-vous?
Ça va, ça va. Je vieillis tranquillement, mais ça va.
Vous mûrissez encore, vous progressez spirituellement, oui, vous avancez encore dans la vie, on va dire ça comme ça.
Oui.
Vous savez, c'est comme le bon vin, quand la base est bonne, de toute façon, on peut avancer en âge, il est de plus en plus bon. On va dire ça comme ça.
Moi, il m'adhérise pas mal, là.
Beaucoup de dérision, déjà. Ça, c'est une preuve d'intelligence. Beaucoup d'humour.
Alors, c'est gentil, merci.
On va parler de votre vie, de votre parcours, d'un bouquin, moi, qui m'a vraiment impressionné, qui est sorti en 2003, je crois, il y a déjà longtemps, mais on peut le retrouver. C'est aux éditions Jean-Claude Lattès.
Oui.
Cette musique qui me vient de loin. Alors, moi, je vous connaissais bien. Je connaissais votre parcours, bien sûr, mais on apprend vraiment encore beaucoup de choses sur vous, sur votre enfance, notamment entre l'Orient, entre l'Afrique. Et on comprend mieux votre parcours ensuite. Parce que quand on a une enfance comme ça, on ne peut pas être fonctionnaire derrière. Il y a quelque chose qui... ça ne va pas être possible. On a été nourri de trop de choses, de trop de difficultés. Et le combat que vous avez mené tout au long de votre vie vous a amené justement à être une artiste différente.
C'est-à-dire que, comme dit Barbara, notre enfance nous déchire et on n'en guérit jamais, mais... Là, on a eu aussi, on a eu la chance, mes frères et sœurs, d'avoir une mère extraordinaire qui nous a tout de suite donné le meilleur des baumes, c'est-à-dire l'imaginaire. Alors, c'est sûr, on s'est retrouvés dans des situations où on n'avait plus rien, des situations où on avait plein de domestiques, on est allés de très haut, très bas. Mais toujours, elle nous a laissé libres de rêver, de penser. Voilà, donc, c'est une époque aussi où maintenant, ça a l'air complètement... idiot de dire ça, mais nos camarades, par exemple, n'avaient pas de disques ni de livres chez elles. Elles étaient impeccables, bien habillées. Nous, on avait des chaussures trouées. On n'avait plus rien, mais on avait des livres, on avait des disques. On allait voir des films qu'on racontait après dans la cour de récréation. C'est notre manière à nous d'être stars. Et c'est le meilleur des baumes. Elle a compris que c'était par là que ça passait.
Une maman très présente, un papa aussi très présent, pas toujours dans le bon sens des choses, voilà.
Il valait mieux qu'il ne soit pas là, en fait.
Militaire, en fait.
Oui, officier, parfait, beau, séduisant, enfin beau. Mais, oui, on le trouvait beau à l'époque, très surhomme par l'extérieur, maître d'armes, maître d'équitation, maître nageur, conduisant tout ce qui se conduit.
Depuis des avions, des voitures, tout.
Voitures, ouais, voilà. Ouais. Chantant de l'opéra à tomber, peignant comme Alma Tadema... Voilà, les chevaux lui obéissaient au souffle, très doué, mais très héros par l'extérieur, très cruel aussi, un peu froid.
Voilà, très, très égocentrique. En tout cas, ça, on comprend voilà, ce que vous êtes aujourd'hui, l'artiste que vous avez été. Alors, dans les connus face à l'inconnu, la première question que je pose à tout le monde, qu'est-ce que l'inconnu pour vous? Vous en avez connu beaucoup d'inconnus, des lendemains qui sont inconnus, en tout cas, on ne sait pas ce qu'on va y trouver, et... Quels sont les sentiments qui accompagnent cet inconnu? La peur, la joie, l'angoisse, au contraire l'excitation?
L'inconnu, mais on y est confronté tout le temps. On vit entre deux nuages avec le passé qui nous obsède et le futur qui est aussi un autre. Et on est au milieu, là, comme ça, on avance vers l'inconnu. On ne sait pas quand on va mourir. Peut-être que sur le net, ils le savent mieux que nous, parce qu'avec toutes les données qu'ils ont, ils pourraient nous le dire. Mais nous, on avance avec... notre esprit d'aventure. J'espère que je garderai mon esprit d'aventure comme ma mère. Elle disait, mourir est aussi une aventure. Voilà, je le garde pour voir comment ça se passe.
Elle est partie sereine d'ailleurs.
Elle a écouté toute sa vie Oum Kalsoum en s'endormant, Radio Le Caire. Et nous, on entendait cette voix étouffée d'Oum Kalsoum à travers sa porte. Et elle est partie comme ça, elle est partie dans son rêve.
Paisiblement.
Voilà, paisiblement. Avec un beau sourire, allongé dans la position du Bouddha allongé, un bras sous la tête, l'autre le long du corps, voilà. Mm-hmm. Elle ne sait pas qu'elle est morte, elle rêve toujours.
Oh, c'est beau, elle ne sait pas qu'elle est morte, elle rêve toujours. Magnifique cette phrase, j'aime beaucoup. Et donc, c'est pas vraiment une peur alors de cet inconnu, j'ai l'impression que vous n'en avez pas peur du lendemain inconnu.
Vous savez, la peur est quelque chose de très étrange parce que ça... Je vais vers elle quelquefois, parce que quand on vit comme je vis, c'est-à-dire toujours en précarité, sans savoir ce qui va nous arriver, sans avoir choisi la sécurité, déjà, elle nous habite en permanence, cette peur. Bien sûr que j'ai peur de mourir, j'ai peur surtout pour les gens que j'aime, j'ai peur, par exemple, ma fille, ma petite fille, je ne serai pas là pour les aider quand elles mourront, et tant mieux, mais en même temps, c'est terrible, je ne serai pas là pour les aider.
Quand elles mourront peut-être que vous serez une âme qui serait autour d'elles et qui les aideront à monter. Hein.
Oui, ça c'est la belle histoire.
Mais ouais, pourquoi pas.
J'aimerais que ce soit vrai. Ouais.
Alors, vous avez été... brinque-ballé dans des avions avec des aventures toutes petites. Vous avez 3 ans avec votre père militaire de l'Orient à l'Afrique, puis ensuite l'arrivée à Marseille. Donc, il y a un mélange de cultures en vous, africaine, orientale, française, donc qui vous ouvre quand même beaucoup à ces mondes de l'invisible, forcément.
Mais oui, parce que il y a cette transe, je crois beaucoup à la transe. Et puis, il y a cette mère qui tirait les cartes, qui fumait... qui avait des intuitions. Bon, c'était aussi une mère qui était armée, qui montait sur les toits pour tirer des coups de feu quand elle était contente, qui se promenait à cheval. À l'époque, hein, c'est les années 40-50, ouais. C'est une autre vie. C'est une vie très hollywoodienne, finalement.
Ouais, complètement. Mais votre vie est un roman, quand même, Armande. Vous en êtes consciente,
mais
je pense
que les gens qui ont traversé cette période ont traversé 2 siècles d'un coup. C'est un passage terrible. Entre les années 40 et les années 50, le rock'n'roll qui arrive, donc c'est tout un... On traverse un siècle à une vitesse incroyable. Mais c'est une mère aussi qui je ne sais pas si son côté oriental a gardé quelque chose d'ouvert sur l'irrationnel.
C'était une médium, elle lisait les lignes de la main
Elle lisait un peu les lignes de la main, elle regardait dans le marc de café, elle tirait les cartes, mais en même temps elle avait des intuitions. Quand elle se mettait en colère, ma fille était un peu comme ça aussi. Les portes des buffets s'ouvraient, les verres tombaient.
Non.
Ah oui, il y a des
tellement l'énergie était forte.
Je pense oui. Et c'est un truc qu'on ne s'explique pas. Un matin, elle s'est levée, elle nous a dit ma mère est venue. Ma mère, elle parlait de ma grand-mère qui est une Tcherkesse.
Qui était décédée.
Voilà, Sherifa Kumpalkabartay Altay. À cette époque-là, elle n'était pas décédée. Et elle dit, elle est venue vous voir cette nuit. Elle était en noir, elle avait un parapluie, elle a poussé vos couvertures pour voir vos visages. Bon, maman, tu as rêvé, elle avait toute sa poésie orientale, elle était tout le temps dans l'irrationnel. Et en même temps, elle nous parlait de ça, et bon, tu as fait un cauchemar. Mais le soir, lorsque nous sommes rentrés, il y avait une lettre cernée de noir, et sa mère était morte...
Dans la nuit.
Pas le soir même, en fait, c'était le lendemain, était morte cette nuit-là.
Ah oui, donc...
Donc il y a des choses comme ça que je ne peux pas expliquer.
Mais on n'explique pas, on les vit, on les raconte et ça peut suffire. Il n'y a pas besoin de tout expliquer, vous savez.
Je suis très rationnelle moi-même, je suis très sainte tomate, je fais attention à tout. Mais en même temps, je garde mes antennes ouvertes parce qu'on sait si peu de choses. Vous imaginez seulement, il y a, je ne sais pas, à l'époque de la guerre 14, si on avait montré les machines qu'on a aujourd'hui, les radars... Voilà.
Sûr, ils auraient pris ça pour des anges, des démons ou autre. Enfin, c'est une belle histoire que vous venez de nous raconter quand même. Votre mère qui a dit que votre grand-mère était venue, alors qu'elle était toujours vivante, mais en fait non, elle était décédée. Vous l'avez appris grâce à une lettre ensuite. Donc il y a vraiment une âme qui règne là-dedans.
Il y a quelque chose qui flotte. Voilà, je me dis qu'il y a quelque chose qui flotte autour de nous. Je ne sais pas ce que c'est, mais... J'aimerais que ce soit vrai, j'aimerais tellement.
Bah, écoutez, c'est vrai.
Et elle nous racontait un truc étrange aussi, ma mère. Elle nous disait que ma grand-mère, qui est tcherkesse, venait de ces tribus tcherkesses qui ont été, comme en Crimée, les Tatars, qui ont été déplacés par les Russes pour prendre la place dans les pays où ils étaient. Mais en même temps, ces gens avaient ils étaient chamaniques, par exemple. Même s'ils avaient adopté la religion musulmane, la plupart du temps, ils avaient quelque chose d'ancien qui était les chamans. Et y avait un cousin à elle, par exemple, qui dessinait des papiers sur des papiers ou des cartons, des poupées. Il les découpait, il les jetait par terre. Et puis tout d'un coup, il mettait les mains comme ça de loin dessus et la poupée se reconstituait, montait et dansait. Et ma mère était complètement affolée par ça, elle hurlait. Et ma grand-mère venait, elle lui dit « Arrête de faire peur aux enfants, à ce cousin. » Et il n'y a pas très longtemps, mon frère m'envoie un truc qu'il a vu à New York, un gars qui, vous savez, les baladins à New York qui font des tours de cartes.
Oui, oui.
On peut le trouver, si vous voulez, je vous l'enverrai.
Ah oui, on le mettra en lien sur Internet, bien sûr, sur Bob, vous dit toute la vérité.
Qui dit « Choisissez une carte à quelqu'un, quelqu'un choisit une carte, et puis... » Il dit ne me la montrez pas, comme d'habitude, ça commence comme ça. Et puis il dit que c'est un tour vieux de 5000 ans, et c'est tout. Et il jette les cartes par terre. Et tout d'un coup, les cartes, il fait 2-3 gestes, et elles se lèvent, et elles constituent un petit bonhomme qui se met à danser exactement pareil. Et il s'approche de la personne, alors tous les gens reculent, ont peur. Et parce qu'il saute, ce petit bonhomme, il s'approche des gens, et il lui tend sa carte. Et donc la personne reconnaît sa carte, prend la carte, le petit bonhomme s'écroule et le paquet de cartes est par terre. Et ça, c'est incroyable. Et ça nous a frappé parce que c'était cette histoire que nous racontait notre mère.
Ah oui, oui, c'était un tour en fait de prestidigitation, mais en fait qui vous ramenait à votre enfance et qu'on vous avait déjà raconté.
À savoir si
en
les
fait.
Magiciens ne se déguisent pas en prestidigitateurs.
Prestidigitateurs.
Oh, bravo.
C'est pas à vous que je vais apprendre à articuler correctement quand même.
Des fois, je me trompe aussi.
En tout cas, c'est passionnant. Vous avez des histoires extraordinaires parce que vous êtes né à Alep, donc en Syrie.
Oui.
Hein, donc une enfance.
Alpha, une des plus vieilles villes du monde.
Donc baigné dans une culture totalement différente, ouverte à plein de choses. Et vous avez vu de vos yeux en petite des trans. Vous parliez des trans justement, mais vous l'avez vu ça régulièrement.
Oui, en Afrique, il y avait les trans.
C'était le quotidien, quoi.
Voilà. Hein? Alors en quelques fois, on avait aussi nos crises de paludisme, donc tout ça. On avait des délires pas possibles, on était dans des états.
Oui, mais est-ce que la fièvre peut être un petit peu comme quelque chose qui pourrait sublimer les
oui,
sens,
c'est possible, hein, oui.
et nous amener dans des esprits un petit peu ou des entités supérieures.
C'est pour ça que dans les années 70, je n'ai pas tellement sombré bien que j'ai essayé dans certaines drogues parce que j'ai l'impression que ça me rendait malade, que ça me redonner les mêmes délires.
Ouais, tout à fait. Et quelles sont les choses étranges que vous avez vues et vécues petites, c'est-à-dire entre l'Afrique et l'Orient? Est-ce que vous avez des souvenirs? Alors, vous en racontez dans le livre, mais
oui.
Est-ce qu'il y en a d'autres, des choses comme ça où vous dites, bon, ça c'est un petit peu irrationnel quand même, il y a une connexion différente.
L'enfance, on est bercé par cette mère toute envahissante, toute dirigiste, heureusement, qui était assez puissante pour lutter contre ce père aussi, très étrange. Mais... ça, on était baignés, c'était naturel pour nous. Après, il y a eu la conscience de l'adolescence, et puis on est devenu beaucoup plus rationnel. Et pourtant, il y a des choses irrationnelles qui ont continué dans ma vie.
Lesquelles?
Je ne sais pas, il y en a plusieurs, mais par exemple, les gitans. Les gitans, c'est très étrange, tout le monde a peur des gitans, et moi, il y a toujours eu un truc avec les gitans. Ils viennent vers moi, ils me parlent, ils me disent des choses. Une fois, j'étais... je faisais la manche à Montmartre, parce que je faisais la manche avec un premier prix d'opéra, mais il fallait bien commencer quelque part. Et le soir, lorsque je rentrais, il y avait toujours des garçons gentils, comme d'habitude, hein, qui vous suivent pour essayer de vous voler, et plus, voilà, parce que j'étais une jolie fille aussi. Et il fallait me défendre, donc une fois, j'ai cassé ma guitare en me défendant. Et j'étais sur les marches du Sacré-Cœur, je ne savais pas quoi faire, parce que le soir même, il fallait que je nourrisse, que j'envoie de l'argent pour ma fille aussi, que je me nourrisse, donc... J'étais inquiète parce que j'avais plus de guitare, je savais pas à qui la demander. Et je vois arriver vers moi cet homme tout noir, les yeux injectés de sang, qui fait un peu peur aux autres, qui délire comme ça. Et il s'approche, c'était vraiment un gitan, typiquement typique.
Dans
il me regarde, il me dit que j'ai plein de papillons noirs autour de moi. Et puis tout d'un coup, il me regarde encore, et puis il enlève la guitare qu'il a autour du cou et il la pose à mes pieds. Et il s'en va. Et cette guitare m'a sauvée, je l'ai gardée longtemps.
Ça, si c'est pas un signe du destin, Armand.
Alors, voilà. Hein? Après, quand j'ai écrit ce fameux livre dont vous parlez, partout où j'allais pour faire des signatures, je me retrouvais avec 5, 6, des fois plus, des gitans autour de moi. Qui regardaient mon livre, ils l'achetaient pas parce que, voilà. Mais ils restaient là, voilà.
Peut-être que
de moi.
Dans une autre vie, vous avez peut-être été gitane ou peut-être. Quelque chose comme ça, ou manouche, ou il y a des. Hein, vous y croyez, ça, aux réincarnations, aux différentes vies?
J'aimerais beaucoup aussi, oui. J'y crois de toutes mes forces, mais quand on dit je crois, on n'est pas sûr.
Ouais. Vous l'espérez?
Je crois que je crois.
Vous l'espérez, c'est ça?
Je l'espère beaucoup, oui.
D'accord.
Mais c'est voilà. Il n'y a pas longtemps encore, on a été avec Igon, mon camarade Igon.
Oui, qu'on connaît bien sur l'antenne, il est souvent invité chez Bob.
au salon de l'agriculture, on s'est assis, il a des amis là-bas, on a prendre un petit verre et manger des petites choses délicieuses. Il y a encore deux gitans, deux tziganes, qui sont venus et qui ont parlé très longtemps avec moi et qui sont repartis.
Comme ça. Mystérieusement, comme ça, ils sont venus. Ouais.
Sans trop savoir qui j'étais, mais ils devaient savoir un peu. Mais
voilà. Ils sentent peut-être quelque chose un petit peu. Hein. Là, on est dans...
Il y a
dans...
ça, par exemple. Il y a plein d'autres trucs comme ça, irrationnels, mais il y a ça.
Mais vous allez nous le raconter, tout ça, parce que ça fait un quart d'heure. J'adore, parce qu'en un quart d'heure, j'ai dû dire 10 mots. Donc ça, c'est fabuleux, parce que j'écoute, je vous écoute, je bois vos paroles.
Je suis bavarde.
Non, mais vous êtes là pour ça. Et vous avez beaucoup de choses à raconter, et je pense que ça va beaucoup plaire à tous nos abonnés. On fait une petite pause.
Les connus face à l'inconnu. Avec Yves Cara.
Ah, là, je vais reprendre la parole. Donc, je vais parler des rencontres du mystère et de l'inexpliqué. On vous attend. C'est le 13 et 14 juin. Et d'ailleurs, vous qui nous écoutez actuellement, comme les 6 premières minutes sont en libre accès, donc, même si vous n'êtes pas abonné, vous entendez donc ce que je dis. Alors, allez-y, 13 et 14 juin, ce sont les rencontres du mystère et de l'inexpliqué. Pas de billetterie sur place, hein, uniquement un achat sur Internet. Il y a beaucoup, beaucoup de conférences le vendredi, le samedi. Et notamment, vous avez par exemple Patrick Sbalciero qui va vous parler des 12 énigmes qui défient la science. C'est un des exemples. Il y en a beaucoup d'autres. Écoutez ça, vous en saurez encore un petit peu plus.
Bob vous dit toute la vérité présente, les rencontres du mystère et de l'inexpliqué. Pour la première fois à Paris, les 13 et 14 juin prochains, 24 conférenciers se donnent rendez-vous dans le 15e arrondissement. Mystère des pyramides, physique quantique, ovni, médiumnité, société secrète, archéologie interdite. Pour ne plus jamais dire « je ne savais pas ». Réservez dès maintenant vos billets en cliquant sur l'onglet prévu à cet effet.
Les 13 et 14 juin, on compte sur vous.
Les connus face à l'inconnu, avec Yves Cara.
On vous garde une place, Armand Altaï, pour ces rencontres du mystère.
Ah oui, je vais venir, bien sûr. Je vais venir avec plein d'amis et je vais écouter tout ça.
Ouais, faut en parler, hein, que les abonnés viennent nous rejoindre. On a besoin de tout le monde. D'abord, oui. Pour continuer d'exister, parce qu'il y a des réalités financières. Et les gens nous rejoignent avec plaisir. Et il y a quoi? 5 heures d'émission fraîches chaque jour. 6 le mercredi avec les connus face à l'inconnu. On bosse beaucoup, mais on adore ça. Alors, Armand, on revient à vous. Alors, avec votre parcours, votre vie, qui est un roman. D'ailleurs, faudra faire un film. Je vais acheter vite les droits parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Est-ce que vous croyez à un destin préécrit ou est-ce que vous pensez qu'on a un libre arbitre ou est-ce que c'est entre les deux? Parce que vous avez quand même, à chaque fois que les situations compliquées apparaissaient dans votre vie, réagi, donné un coup de poing pour forcer les choses. Et en même temps, il y a des choses comme le gospel qui est arrivé dans votre vie sans que vous le cherchiez vraiment, qui a un peu été un tournant, qui a été un tournant important dans votre vie, qui était un grand spectacle. Donc, comment vous le sentez tout ça? Libre arbitre? Tout est écrit?
Je sais pas quoi dire. Il y a toujours cette culpabilité qu'on traîne. Surtout nous, les femmes, on traîne une grande culpabilité. Mais en même temps, je suis quelqu'un qui aimerait ne rien faire. Une oisive contemplative. De nature, je suis ça. En même temps, je dessine, je peins, j'écris, je fais plein de choses comme tous mes frères et sœurs. Parce que quelque part, je pense que tous les humains sont comme ça. Sauf si les parents les castrent en faisant pas attention à ce qu'ils font. Mmh. Et donc, quelque part, je me laisse aller, je n'ai jamais eu d'agent,
oui.
Et puis quand tout d'un coup j'ai peur, il ne se passe plus rien, il faut survivre, il faut être pragmatique, et pof, et effectivement quelque chose arrive qui me tend la main au dernier moment, après il faut me bouger quelquefois, mais je ne me bouge pas, je ne vais pas chercher pas assez.
Est-ce que vous provoquez les choses en les demandant fortement au fond de vous-même, pour les demander peut-être dans l'astral, oui. Ou autre?
Tout à l'heure, vous parliez de la peur arrive à ce moment-là. La peur d'être dehors, d'être une clocharde, ça a toujours été ma peur, de ne pas nourrir ma fille, ma petite-fille, je vais tout faire pour les aider, c'est ça qui me pousse, sinon je pense que je serais partie dans une sorte de délire pas possible.
Ouais. Ouais, y a toujours un peu le côté
ça
rationnel,
ça me ramène, voilà,
côté là, raisonnable. Côté mère. Sinon, vous seriez parti complètement dans des délires.
Bon, je serais...
Votre fille Virginie, que vous avez eue assez jeune d'ailleurs, hein, vous avez eue assez tôt en fait.
À l'époque, il n'y avait pas de pilule.
Mais... Ouais.
Alors, c'était les hommes qui vous faisaient des enfants dans le dos. Mais j'avais le choix, mais j'ai choisi de l'avoir.
Ouais,
j'ai choisi de l'avoir. Là aussi, il y a eu un truc étrange.
Allez-y.
Parce que, bon, je me suis mariée à 18 ans, en blanc, vierge. C'était comme ça à l'époque, hein. Mm-hmm. On n'imagine pas. Et donc, j'ai dit à mon mari, je ne veux pas d'enfant tout de suite, fais attention. Eh bien, non. Il m'a quand même fait. Donc, à 19 ans, j'étais enceinte. Et je me posais la question, qu'est-ce que je fais? ce que je la garde, ce que je la garde. On m'a proposé de ne pas la garder. Je m'étais renseignée parce que je voulais ma liberté. Je voulais pas être prise enfant après enfant, être dans cet engrenage. Voilà, que faisaient les hommes à l'époque pour retenir les femmes.
Oui, voilà, parce que c'était l'idée de lui faire un maximum d'enfants.
Voilà, ouais. Je veux dire, les femmes à l'époque, les filles qui se disent qu'elles sont pas féministes maintenant, à l'époque, on n'avait pas le droit d'ouvrir un compte en banque, on n'avait pas le droit de travailler, c'était le mari qui décidait.
Vous vous rendez compte, on parle de ça au siècle dernier.
On ne pouvait pas sortir dans la rue sans être traité de pute, carrément.
On parle de la France, là.
On parle de la France. Je suis vieille, mais pas. Voilà, donc c'est pas vieux. Alors, quand on voit ce qui se passe en Espagne, ça peut revenir.
Quoi. Oui, il faut être vigilant, vous avez raison.
Quand il faisait moins 10, on n'avait pas le droit de porter de pantalon, sauf s'il faisait moins 10. Et si on portait un pantalon, les gens nous disaient castratrice, tout ça. Ça, c'est pas les théories du genre, ça.
Dans l'autre sens, voilà. Exactement. Ouais.
Donc, quelque part, c'était.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé d'étrange avec votre.
Quand j'étais enceinte, je me posais des questions et un jour je suis passée devant un jardin d'enfants et il y avait une petite fille brune qui était assise comme ça et elle avait à la main quelque chose qui était interdit. Il y a quelqu'un qui est venu, qui lui a pris et qui lui a donné une tape sur la main. Et j'ai ressenti un coup au cœur, mais quelque chose de terrible. J'ai eu envie de pleurer, j'ai regardé cet enfant. Je ne sais pas si c'était une image de moi, une image de... Elle était brunette, elle était mignonne. Et en fait...
Ça vous a convaincu de la garder, de garder votre enfant?
Je l'ai gardée, puis j'avais fait aussi un étrange rêve quelques temps avant. Je voyais... c'était pas un rêve. Il me semble que j'étais réveillée, que j'ai toujours été insomniaque, qu'il y avait une sorte de nuage qui venait vers moi, qui prenait forme. Et chaque fois que je me réveillais, je regardais de tous les côtés qu'est-ce que c'est, d'où ça vient. Et dès que je refermais les yeux, je revoyais ce nuage qui venait vers moi, qui rentrait en moi. J'étais déjà enceinte, je ne le savais pas. En fait, j'ai pensé par la suite que c'était... Voilà. Et quand ma fille est née, elle était exactement le sosie de cette petite fille.
Ah bah si c'est pas des signes, ça, Armand, excusez-moi.
Je ne sais pas, voilà.
Non, vous êtes en train de nous raconter des trucs qu'on pourrait voir dans un film de science-fiction. Vous l'avez vécu. D'ailleurs, dans ce livre, souvent, vous avez dû peut-être le prononcer avec la journaliste qui vous a aidé à écrire peut-être ce livre.
Personne m'a aidé à écrire ce livre. Je l'ai écrit. J'ai une amie qui s'appelle Annette Vincent, qui a été ma première lectrice, qui tapait les textes, et qui, parce que moi, je tape pas aussi vite qu'elle, et qui est très forte en français. Parce que moi, j'invente des mots à moi.
Pour organiser, bien sûr.
Et finalement, je les ai gardés, les mots que j'ai inventés quelquefois. Elle m'a critiqué.
En fait.
Ouais. Mais j'ai écrit le livre toute seule.
Et vous, alors, si je le dis, c'est parce
écrire.
Que. Non, mais ça, on n'en doute pas. Hein. Vous avez fait tellement de choses. Vous dites souvent, vous reprenez souvent cette phrase, je vous jure que c'est la vérité.
Oui, parce que.
Comme si vous aviez peur qu'on ne vous croie pas, tellement c'est énorme.
Tellement c'est hollywoodien.
Ben oui, c'est ça, en fait. C'est pour ça que quand vous racontez ces histoires, vous le dites, je vous assure, je l'ai vécu, je vous jure que c'est la vérité, quoi. Et vous l'écrivez, en plus.
Oui.
Vous avez peur qu'on ne vous croie pas.
Oui, parce que quand je raconte les chevauchées, les sabres au clair, je me dis, voilà, les gens ne vont pas le croire.
C'est Hollywood, mais c'était ma vie.
Ouais,
c'était votre vie. Alors, voilà. C'est intéressant quand vous avez dit, je ne dormais pas, j'étais insomniaque, et ce n'était pas un rêve, je l'ai vécu. On peut vivre pas des rêves éveillés, mais des sortes de prémonitions, de choses qui vous sont données comme ça.
La nuit, c'est terrible. J'adore Adamo pour ça, parce qu'il a des phrases, des fois, « Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir, on a tout. » Et des fois, il chante simplement « La nuit, je deviens fou, la nuit. » Eh bien, la nuit, c'est terrible pour moi. Parce que la nuit, il se passe des choses incroyables. J'attire des choses, je voudrais les savoir, mais en même temps, j'ai très peur. À ce moment-là, je les repousse, je dors très mal, j'ai des apnées, des sursauts tout le temps. Une fois, je dormais chez un ami, et j'étais bloquée, quelqu'un me bloquait, quelqu'un me tenait, m'empêchait de me retourner. Et j'essayais de parler, d'appeler mon ami, j'avais la voix déformée, et à un moment donné, la lumière qui est tout au fond de cette pièce s'est allumée, un petit lampadaire comme ça, et j'ai dit « Merci à mon ami, merci Bernard », je lui ai dit. J'ai fait un cauchemar, merci Bernard. Et je me suis réendormie, c'était presque le matin, on devait aller jouer en matinée, Godspell, tout de suite après. Et le lendemain, il m'amène le petit déjeuner, je dis merci d'être venu cette nuit, je ne sais pas ce qu'il m'a pris, j'ai fait un cauchemar. Il me dit mais je n'ai pas bougé moi cette nuit.
D'accord, la lumière s'est allumée, en fait il n'était pas là, et voilà. C'est ce qui vous a un petit peu sorti de votre...
Et il y avait quelqu'un qui me tenait, qui m'empêchait de me retourner, qui me torturait... quelque chose de très lourd qui était dans mon dos et j'arrivais pas à me retourner, j'arrivais pas...
C'était pas une oppression physique simple suite à un stress ou une angoisse, parce que tout allait bien, vous sentiez vraiment une présence.
Absolument, oui.
Ah, ça doit pas être facile de trouver le sommeil,
dans
la nuit.
Et lui m'a dit, mais sur ce canapé où tu dors, il y a eu plein de gens qui ont eu des moments difficiles la nuit.
Mais Armande, vous êtes un petit peu médium, vous avez des dons, vous avez déjà annoncé des prédictions, des choses comme
oui,
ça à des amis.
Je tire des cartes aux amis ça, mais c'est un jeu de société, ça permet de, il y a des choses qui tombent vraies, mais pour moi c'est un jeu, c'est juste un jeu, on a un support pour mettre des impressions, des sensations, et tout en lisant, en interprétant les signes.
On n'avait pas essayé d'aller plus loin quand même dans cette démarche, je sais pas, de faire tourner les tableaux ou d'exploiter pas forcément financièrement, mais de travailler ses dons. Parce qu'il y a un petit don, il y a une...
Oui, mais pas avec les autres, toute seule, j'essaye de... Mais quelquefois, j'ai un petit peu peur de devenir folle.
Ouais, de passer de l'autre côté, c'est
oui,
ça.
Oui, parce qu'une
fois,
j'ai entendu quelqu'un qui m'appelait et il n'y avait personne dans l'appartement. Donc, j'ai dit, on va dire que je suis schizophrène. Mais c'est arrivé une fois et je l'ai bien entendu.
Mais vous savez qu'on en a assez régulièrement sur l'antenne, que ce soit dans l'émission avec Bob ou des médiums avec Mathieu de 20h à 21h, des personnes qui sont en contact avec des défunts, qui entendent des voix, qui les voient. Alors, ce qui est assez surprenant, c'est que parfois, il y a des personnes qui en ont peur et qui vont se faire soigner dans des hôpitaux, et d'autres qui disent « Ok, je l'accepte, je vis avec », qui vivent très bien avec, et qui en font, sinon un métier, en tout cas, une
Je pense
une
qu'il
profession.
Y a la maladie, et puis il y a le véritable talent, mais comment faire la différence?
Comment différencier les deux, tout à fait,
Le nombre de schizophrènes qu'on a dû brûler
sur... Ouais. Alors que, mais, vous savez, c'est comme les enfants, quand on est enfant, on voit des tas de choses, on ressent des tas de choses, on joue avec peut-être des fantômes, on oublie ensuite, quand on devient adulte...
Moi, j'avais un ami invisible.
Ouais.
Oui, enfant, oui.
Lequel? Comment il s'appelait?
Je ne sais pas, mais j'avais un ami et mes frères et sœurs avaient peur de ça.
Ah ouais. C'est marrant parce que ça fait souvent peur, en fait. Pourquoi ça ferait peur?
L'inconnu fait peur. C'est avec tous les films en plus, alors que les fantômes sont peut-être des amis.
Moi, je connaissais je vais raconter une petite anecdote. C'était, j'avais une propriétaire, je louais une maison dans la banlieue d'Île-de-France, et son mari, avec qui il a vécu 40 ans, était mort à cause du cancer quelques années avant. Et elle m'a raconté des événements, des ampoules qui explosaient, des portes qui claquaient alors qu'il n'y avait pas de vent, alors qu'elle était toute seule dans la maison. Et donc voilà, des manifestations apparemment après la mort de son mari. Et je lui dis, alors bien sûr, j'ai noté tout son témoignage, vous pensez bien. Je lui dis, mais ça ne vous fait pas peur? Elle m'a dit, pourquoi j'aurais peur? On s'aimait tellement. C'était beau, hein?
Oui.
Au contraire, il était là, il essayait de lui parler, de se manifester. Elle n'avait pas peur, elle regardait ça. On s'aimait tellement. Finalement, il n'y a que l'amour, Armand Daltaï, dans la vie.
Et j'ai eu un appartement comme ça aussi. C'était 28 rue Saint-Paul, ça doit toujours être là. C'est un endroit où, très ancien, où il y a tous les Templiers qui sont dans le sous-sol. C'est un cimetière de Templiers. Et là, je sais que c'était... On habitait un rez-de-chaussée à l'époque et on entendait toutes les nuits un forgeron qui travaillait. Donc ce rez-de-chaussée, avec un grand portique, avec des pierres sur les côtés usées par les essieux des carrosses, ça devait être le forgeron, celui qui faisait les fers forgés, et puis les écuries en bas, comme souvent. Et on entendait taper comme ça des séries de coups, puis des objets, des outils qui se posaient, puis quelqu'un qui marchait. Et on s'était habitué, on faisait plus gaffe. On a demandé quelquefois à la concierge, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que ces bruits. On dit, ah, ça a toujours été, mais mon mari a fait des travaux en dessous, et il y a des sarcophages, je ne veux pas savoir.
Ah oui, d'accord.
C'était... On a vendu cet appartement, on a pris un duplex beaucoup plus haut, et les gens qui ont pris notre place nous ont appelés en nous disant, mais qu'est-ce que c'est que ça? On a très peur. J'aurais dit, mais écoutez, il ne dérange personne, il est chez lui.
C'est un fantôme qui est en train de faire un forgeron fantôme, vous allez pas nous embêter avec un fantôme, non?
On lui a parlé comme ça, c'était les années 70, alors on a été beaucoup plus cool à l'époque. Et on lui a dit, mais vous savez, il y a un exorciste à Notre-Dame, si vous voulez, mais je pense qu'il ne faut pas le chasser, vous allez vous habituer.
Vous racontez ça avec un naturel, avec voilà, j'habitais un appartement, un forgeron fantôme, une entité qui était au-dessous, et tout va bien, quoi.
C'était un banquier suisse qui avait pris cet appartement, et il nous disait, mais tout ça n'est pas logique. Et je me souviens, à l'époque, j'étais très, très donneuse de leçons, très folle dingue. L'époque hippie, je vous dis.
Les années 70.
Je lui ai dit, oui, mais les gens qui s'abritent derrière la logique, ce sont ceux qui manquent d'imagination.
Pour un banquier, on lui demande surtout d'être efficace. Imagination, les banquiers, J'imagine les chiffres avant la virgule.
Mais là, c'était peut-être son destin d'être dans cet endroit.
Ouais. Vous n'avez pas eu la suite, c'était pas.
Non, parce qu'après, j'ai déménagé encore une fois, et donc je ne sais pas, mais l'endroit doit être toujours pareil.
Vous n'avez pas tout dit dans votre livre, parce que ça, c'est pas raconté dans votre livre, c'est une anecdote.
Il faudrait que j'en écrive un autre, mais là, c'est la musique, c'était la musique le sujet du livre.
Oui, ouais, tout à fait. Cette
donc
musique
je survolais comment elle m'a accompagnée, elle m'a aidée à vivre tout au long de ma vie, et d'où elle vient.
Mm-hmm. On va en parler juste après cette petite pause.
Les connus face à l'inconnu, avec Yves Cara.
Une pause pour vous faire la promo des copains qui sont sur l'antenne, des amis, parce que imaginons, vous n'êtes pas abonné, vous n'avez fait qu'acheter, si je puis dire, ce qui est déjà bien, merci, le podcast de cette émission avec Armand Daltaï, parce que vous aimez beaucoup sa personnalité, son parcours. Eh bien, sachez que il y a beaucoup d'autres émissions sur cette antenne. Bob vous dit toute la vérité. Vous avez à partir de 14h jusqu'à 15h François Démier. Et si on allait mieux, voilà, des pistes pour améliorer votre quotidien, que ce soit dans la nourriture, dans la spiritualité, dans la réflexion. Enfin bon. Croyez-moi, il y aura forcément une émission au moins dans la semaine qui vous passionnera et ensuite toutes les autres. Ensuite, 20h-21h, Mathieu, il est là, il est toujours là.
Bonjour Armand.
Il mange ici, il dort ici, il fait tout.
Je suis toujours là. Il est beau Mathieu.
Il est beau, hein, vous avez vu.
Ah ouais, merci. Les filles, vous verrez les yeux qu'il a, il est grand, il est costaud, il est magnifique.
Ah bah merci. Et il est talentueux, moi je l'appelle Octopussy parce qu'il fait 18 choses en même temps, il doit avoir 18 mains, 18 cerveaux. Donc toute votre vérité, 20h-21h.
Ouais, je vous propose une libre antenne où on peut parler de votre passé, de votre présent et de votre futur. Alors quand je dis parler de votre passé, c'est les vies antérieures avec une experte qui s'appelle Claire Thomas, de votre présent avec un numérologue qui dresse votre portrait psychologique qui s'appelle François De Sille, vendredi par exemple, ou encore de votre avenir. Voilà, je reçois des voyants, des médiums qui peuvent répondre à toutes les questions que vous posez sur votre avenir. Et si vous voulez participer à l'émission, c'est hyper simple, vous m'envoyez juste un mail à mathieu@bob-toutelavérité.fr.
Exactement, c'est gratuit. Et si vous voulez aller plus loin avec ces numérologues, astrologues, c'est de votre responsabilité, n'hésitez pas. Et puis bon, le mercredi, mais vous le savez, vous avez cette émission Les Connus face à l'inconnu avec aujourd'hui Armand Daltaï.
Les Connus face à l'inconnu avec Yves Cara.
Armand Daltaï, donc artiste complète, chant, comédie, composition de musique, des chansons, mais également des musiques de films, hein, beaucoup.
Oui.
Vous avez joué, alors ça on le sait peut-être un petit peu moins, que vous êtes une vraie actrice avec George Wilson, Zulawski, quand même, pas des petits noms, quoi. Hein.
Oui.
Et alors, très intéressant, c'est ce qui vous a amené à Star Academy. Vous avez créé une méthode très personnelle de chant, de diction, de développement de la personnalité et de la photogénie. Hein, donc du comportement en fait, du message non verbal,
de la séduction
tout simplement, qui vous a amené à Star Academy à partir de 2001, je crois. Vous avez fait plusieurs saisons jusqu'à 2008, et là la France entière, qui n'était pas forcément celle underground que dans lequel vous évoluiez à l'époque avec votre musique, vous a découvert. Ça a été un tournant dans votre vie, ça aussi.
Il y a eu plusieurs tournants comme ça, des moments de calme, de retrait, puis d'un seul coup quelque chose. Et là, c'est la première fois que j'allais dans un autre public.
Oui.
Parce que j'étais toujours un peu marginale, j'étais confortable, je n'ai jamais su faire la récupération comme d'autres ont réussi, donc moi je suis restée confortablement dans mon côté marginal avec ma petite cour, mon petit culte, comme on dit.
Avec quand même tous les déjantés de l'époque, hein, on peut le dire hein, quand même. Hein.
Il y a eu,
C'était du lourd, c'était du sérieux quand même. Dans les années 70-80, c'était de l'underground. D'ailleurs, beaucoup sont partis, hein, à cause de la drogue, à cause du sida, à cause de beaucoup de choses.
Hein. C'est vrai.
Le côté rock'n'roll est parfois éphémère. Hein. Alors donc ça a été un tournant.
Et puis là, je suis arrivée dans un autre monde, et alors pendant des années, les maisons de disques me disaient... Enfin, Armand Daltaï, on vous signerait bien, mais votre physique est trop bizarre. Mais toutes les filles qui m'ont copié ou qui se sont inspirées de moi, ça a marché, donc c'était pas si bizarre que ça. Mm-hmm. Je dirais pas de nom, mais à vous de faire le jeu de loi pour deviner. Mais là, je me retrouvais vis-à-vis d'un public absolument populaire. Eh bien, contrairement à tout ce que les gens disaient, ils m'ont aimée telle que j'étais. Alors, bien sûr, au départ, ils me disaient, oui, nous avons des coiffeurs, nous avons des stylistes.
J'ai dans dit, la production, ils voulaient vous changer complètement, c'est ça?
Non, j'ai dit, non, mais qui peut m'habiller avec, je sais pas, je fais 100 tours de poitrine, 100 tours de hanche, 60 tours de taille, je donnerai trop de fil à retordre, et sinon, c'est moi qui m'occupe de moi, je me maquille, je me coiffe, je m'habille. Et du coup, c'est les gens m'ont adoré tel quel. Mmh. Ils ont cette espèce de truc très bizarre en disant, elle est complètement excentrique, mais tellement naturelle.
Et puis compétente, parce qu'au bout d'un moment,
ils se sont rendus compte qu'il y a du travail derrière le chant.
Voilà,
ce qu'ils ne pensaient pas, parce qu'on est en France, les gens ne parlent pas de leur professeur à part les classiques. Parce que la victoire de la musique classique, ils remercient leurs professeurs, mais les autres, ils prennent pas de cours, ou ils sont anti, voilà. Donc, alors que dans les pays anglo-saxons, ils travaillent énormément.
Donc ça a quand même changé votre vie, ça a été un tournant dans votre destin. Et là, on en revient à peut-être à des choses préécrites que vous ne l'avez pas vraiment cherché, et ça vous est tombé dessus. Qui vous a contacté d'ailleurs pour cette émission Star Academy?
Bah, c'est comme les maisons de disques en général, ils m'envoyaient leurs artistes pour que je...
Les faire progresser.
Et donc, il y a Caroline Molko qui m'a dit, mais allez vous présenter là, on demande un professeur. J'avais déjà fait quelques émissions où je donnais pas les noms parce que j'avais des gens qui ne veulent pas qu'on dise qu'ils prennent des cours.
Ça c'est très français, quoi. Au contraire, le travail est plutôt une valeur appréciée aux États-Unis. On n'hésite pas à dire je bosse comme un fou. En France, si on travaille, c'est qu'on n'est pas doué. Hein, non, c'est curieux. C'est, voilà. Dans le sport,
mais il y en a
pareil,
qui l'ont
d'ailleurs.
Dit. Il y en a qui ont été très très corrects, qui l'ont dit, donc et qui n'étaient pas des moindres. Donc alors voilà, et ça a commencé comme ça.
Et c'est comme ça. Ça a été un beau tournant dans votre vie. Et à ce moment-là, comme par hasard, la maison de disques vous a re-signé pour un disque.
Ah non, elle m'a pas re-signé. Non, ah bon, non, absolument pas.
Ouais,
non,
j'ai
non,
cru
non.
que.
Non, absolument pas. Le disque, c'est moi qui l'ai fait toute seule.
Ah d'accord, on n'est pas revenu.
Ah non.
Ça n'a pas été plus facile parce que vous aviez Star Academy quand même, avec une exposition médiatique.
Je pensais sans doute qu'avoir une femme un peu marginale et bizarre comme moi, ça allait crédibiliser. Mais par contre, ma musique, ils n'en veulent pas.
Ouais, c'est étonnant.
Il y a des tas de gens qui m'aiment beaucoup, qui me demandent des autographes, mais pas tous. Certains, oui. Mais pas tous. Même ce livre, j'ai signé énormément de ce livre à des gens qui étaient le public de TF1. Et après, ils revenaient me voir, ils me disaient, mais c'est passionnant, je ne connais pas les gens dont vous parlez. Donc j'ai dit, mais cherchez.
Oui, il n'y a pas les noms, souvent.
Voilà, écoutez,
il faudra m'en donner un de nom, d'ailleurs, parce que je vais lire un extrait du bouquin. Là, je veux le nom, parce qu'il y a peut-être prescription, mais celui qui vous a sauté dessus, dont vous étiez follement...
Non, je ne peux pas le dire.
Ah ouais? Ah, c'est dommage, parce que là, moi, j'aimerais bien balancer un petit peu qu'on dise toute la vérité.
Comme
là,
dit
parce...
Brassens, les morts sont de braves types.
Ah, il n'est plus là, d'accord.
Et il n'est plus là, il est toujours très vénéré, très... Ah, donc, voilà. Mais c'est l'époque où...
C'était un Belge ?
Non, c'est un Français.
Un Français ? Vous ne donnez pas le nom et on vous sent très en colère quand vous parlez.
Parce que
vous l'admiriez et il vous a beaucoup déçu.
Voilà, mais le problème, c'est que... À l'époque, il y avait quoi, 3-4 chanteuses qu'on opposait les unes contre les autres. Et dans une maison de disques, il y avait 300 chanteurs pour 2-3 filles seulement, et on les opposait en plus. On était comme à une époque, on disait, voilà, un acteur noir, c'est le noir de service, à Belle et Fille, c'était la fille de service dans cette maison de disques. Heureusement, les choses ont changé, et ça s'est démocratisé. Et il y a de toutes les couleurs, de tous les sexes dans les maisons de disques maintenant, mais...
En fait, pour résumer l'histoire, vous étiez dans une maison de disques, on vous proposait des choses un petit peu mièvres, qui ne vous convenaient pas, vous aviez quelques idoles, dont cette personne dont vous ne donnez pas le nom, et la maison de disques vous dit, je vais vous arranger un rendez-vous avec elle, donc personne de la maison de disques arrive, vous êtes en face d'une de vos idoles, et puis elle a un rendez-vous, comme par hasard, la personne de la maison de disques, là, elle part, elle vous laisse seule avec votre idole, qui vous saute dessus, qui essaie de vous arracher la chemise, qui essaie
qui
de
griffe, voilà. Qui mord, voilà.
Oui, qui va beaucoup plus loin. C'est un DSK en musique là. Hein. Il va beaucoup plus loin là.
Oui, DSK, je m'avancerai pas parce que on ne sait pas.
Ah, si, on sait. Bon. Ça c'est sûr. Il a fait.
Mais bon.
Il n'a pas été. Ça m'est arrivé.
Il n'était pas le seul, mais en tout cas dans la musique, il y a eu ça, il y a eu d'autres, mais bon. C'était et toujours l'air de dire mais c'est comme ça que ça se passe, c'est naturel.
Ouais, d'accord, faut coucher pour réussir, c'est ça.
Oui.
Quand vous avez donné des cours, que ce soit à la Star Academy ou autre, on voit dans d'autres émissions comme The Voice, tout ça. Moi, je trouve qu'il y a des talents spontanés, complètement innés. Ils sont à 17 ans, ils arrivent, ils ont travaillé
16 ans.
Ils ont pris quelques cours de chant, mais il y a eu une maturité. On a l'impression que la voix, elle est travaillée de centaines ou de dizaines d'années avant, alors qu'ils ont que 16 ans. Il y a pas quelque chose de...
Alors, je peux pousser un coup de gueule, là. Tant pis si c'est mal pris. Mais il y a une différence énorme entre ce que les gens qui sont dans les maisons de disques et encore, mais surtout à la télé, pensent que les jeunes aiment. Et la réalité. Alors, ils leur font des chansons. Là, on m'a demandé, il n'y a pas longtemps, de choisir dans les 3 derniers pour l'Eurovision. Et il y avait un groupe, genre, je sais pas moi, tous habillés n'importe comment, dans toutes les couleurs, qui chantent des chansons en piquant un peu Stromae, un peu dur d'être un bébé, un peu des trucs un peu la danse des canards, quoi. Et oui, mais c'est pour les jeunes. J'ai jeunes, mais les jeunes, vous les connaissez pas. Les jeunes, j'en ai dans ma classe à partir de 11 ans, ils écoutent Adele, James Arthur, ils écoutent des trucs magnifiques et ils n'écoutent pas du tout ce genre de musique. C'est juste pour les mariés.
Ils se trompent complètement, en fait.
Ils se trompent complètement. Et donc, ces jeunes, là, ils écoutent et leurs profs de musique, hein, non seulement ils font de la musique, ils font du solfège, ils vont dans les conservatoires, qui se sont remplis grâce à la Star Academy, les cours de chant aussi, faut
comme
le dire.
Comme quoi?
Ou toutes ces télécrochets, pas que la Star Academy, mais les télécrochets. Les gens se sont mis à chanter juste, à entendre juste, taper dans leurs mains, parce qu'on était quand même le seul pays où on avait des stars qui chantaient faux et où un public qui tape pas en place dans ses mains. Mmh. C'est notre spécialité. Ça s'est quand même bien corrigé. Et les jeunes, ils écoutent de la musique, ils font de la musique, ils rêvent de ça, et ils arrivent prêts. Ils arrivent, mais moi...
Ils arrivent prêts parce qu'ils ont écouté, ils ont entendu, c'est pas...
Et ils ont travaillé sur des disques, ils ont fait de la musique.
Quand à 16 ans, enfin on en voit, ils arrivent à 16 ans, ils chantent comme s'ils avaient 30 ans d'expérience.
J'ai des élèves que j'ai pris à partir de 11-12 ans et qui chantent à tomber. Venez les écouter le 22 juin, lorsque je ferai la fête... le concert final de ma classe de chant que je fais chaque année, venez écouter des jeunes.
Le 22 juin, c'est où?
C'est au Balageau.
Au Balageau.
Rue de Lappe.
Rue de Lappe, au Balageau, à Paris.
Voilà.
Avec, écoutez,
et
très
vous
bien,
allez voir des jeunes de 12, 13, 14, 15 ans, 16 ans, les vieux font la gueule parce que ils sont, voilà. Et je pense que les gens se trompent sur ce qu'aime la jeunesse. Alors, ils arrivent. J'ai pas compris pourquoi le petit Elliot est sorti. Dieu sait si j'aime Jennifer, je trouve qu'elle est formidable dans The Voice, mais Elliot, c'est quelque chose.
On parle de The Voice, une émission sur TF1, si vous écoutez cette émission plusieurs mois après.
Il chante à tomber, il est beau comme un ange.
Vous n'avez pas l'impression quand même, moi je reviens à ça, à cette idée qu'il y en a qui ont un talent inné, ils sont nés avec, les gènes c'était dedans. On peut travailler ce qu'on veut, on l'a ou on l'a pas. Enfin, vous le savez bien, vous êtes une artiste, on peut travailler ce qu'on veut, mais il y a des choses qui nous viennent d'avant, quoi. Il y a quelque chose d'inné.
Peut-être, toujours est-il, je pense qu'il y a bien l'acquis et...
L'acquis et l'inné.
Et l'inné, donc
et le travail.
Je pense que avant, tout le monde chantait, tout le monde dansait. Je pense que les premiers hommes, c'était très musical quand ils se parlaient, quand on voit les Bushmen. Dans les tribus, autrefois, tout le monde chantait, tout le monde dansait. Il n'y avait pas un chanteur, mais il y en a qui ont plus de pouvoir de séduction que d'autres. C'est tout. Mais je pense que tout le monde est chanteur et danseur, mais tout le monde est inhibé et castré depuis, depuis cette éducation judéo-chrétienne qu'on subit.
Tiens, voilà. Puisque vous parlez de la musique, il y a une très belle phrase dans votre livre. Je l'ai notée, je vais le retrouver, bougez pas. Est-ce que je vais la retrouver, cette phrase? Ben voilà. Non, si, c'est la première. C'est la force des mots, voilà. Le pouvoir magique d'un simple mot prononcé par une mère est si fort qu'il nous transforme aussi sûrement que dans un conte quand on vous jette un sort. Donc la force des mots, la force de la musique, la force des chansons, la force des vibrations, phrase très très forte, ça. Ça vient d'ailleurs,
c'est une musique
qui vient de l'intérieur et qui vient de l'extérieur.
Et surtout quand
aussi.
On est dans une famille nombreuse où la mère distribue des rôles. Mmh. Toi tu es ci, toi tu es ça, toi tu es la rêveuse, toi tu es la... Et puis je l'ai entendu dire, ça c'est une vieille blessure.
Que j'étais lente.
Un peu plus, ce que je vous ai dit au début, ma nature est d'être contemplative. Et c'est vrai, je suis lente.
Et vous encouragez d'ailleurs dans votre livre les enfants à la rêverie. Vous dites aux parents, laissez-les rêver, c'est à la fin. Hein. Ils ont besoin de se nourrir de cet imaginaire, mondes de l'invisible que l'on crée finalement, parce qu'on les crée.
Et ma mère a dit tout doucement à ses copines, elle est lente et donc. Je suis devenue lente, je suis devenue bègue, je suis devenue bécassine, je suis devenue ce qu'elle voulait que je sois. Donc c'est très dangereux, les paroles des parents, il faut faire très, très attention.
Oui, mais...
Et ils sentent quand la mère aime un tel, un autre moins. Mais souvent c'est celui qui est aimé qui souffre le plus et qui s'en sort le moins. Mais par rapport à laisser les enfants rêver, là je regardais dans les pays nordiques, ils ont compris que ne pas faire de devoirs, ne pas obliger les enfants à sans arrêt faire travailler le cerveau, à le laisser libre, donne beaucoup plus de connexions, de neurones.
Laisser les faire l'imaginaire, tout à fait.
Effectivement, et quand on regarde un corps à l'abandon comme ça, qui rêvasse, qui fait rien, et qu'on regarde l'énergie de ce corps avec certaines machines, on s'aperçoit que le cerveau est noir et grouille. C'est celui qui brûle le plus d'énergie, le cœur est beaucoup plus faible et le reste est très pâle. Donc, mais si le cerveau se met à calculer, à compter ou à se concentrer, il n'y a plus qu'une partie du cerveau qui marche et il ne fourmille plus comme ça. Donc le fait d'être en roue libre et de rêvasser, ça fait plein de connexions.
De connexions et ça fait travailler le cerveau.
Voilà.
C'est la nuit d'ailleurs que le cerveau
sinon,
travaille le plus.
Sinon le cerveau se retrécit. Ouais. Oui, bien sûr, avec les rêves.
Alors à propos de la musique, ça y est, je l'ai retrouvé la phrase.
Page 97. Plus la musique est céleste, plus elle nous fait mal. Pourquoi nous entrouvre-t-elle les portes d'un paradis perdu d'avance?
C'est beau, mystérieux. Ça, la beauté, c'est pareil. Qu'est-ce que la beauté? Pourquoi ça nous émeut? Pourquoi ça nous fait si mal? Pourquoi c'est...
La musique céleste, elle nous entrouvre les portes d'un paradis perdu d'avance. Pourquoi est-ce qu'on doit aller chercher ce paradis, finalement?
C'est comme si on avait la nostalgie d'une ère précessionnelle merveilleuse. Bon, on est dans ce bleu léger et frais de la vie, mais on va vers... Pourquoi quand on est dans une forêt sombre, on va vers une lumière au loin? Parce que ça nous laisse entrevoir ce beau lointain qu'on n'atteint jamais et qu'on ressent dans la musique chez certains musiciens et qui nous fait si mal parce qu'on ne l'atteint pas. Mmh. On ne l'atteint pas, mais dans une clairière, quand on s'avance, le beau lointain s'éloigne toujours parce que la clairière, c'est joli, c'est des fleurs, mais pas plus que là où nous étions avant. Donc il y a ce beau lointain qui nous attire. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça existe en nous? C'est un instinct de quoi?
Ouais, c'est ça. Cette musique céleste, en fait, faut essayer de devenir ce que l'on est. Ça, c'est une grande phrase aussi bouddhiste. Et la musique peut nous aider.
C'est plus lointain encore. C'est plus lointain magique, encore ça. Plus ah ouais. Irrationnel. Je ne sais pas ce que c'est ce château qu'on voit dans les contes, dans le lointain bleu.
Et pourquoi il est loin? Pourquoi il n'est pas en nous? Pourquoi c'est pas facile de le sortir, d'avoir une âme consignante, en empathie avec tout le monde? Pourquoi on est toujours obligé d'aller méditer, d'aller la chercher, d'être dans culture judéo-chrétienne pour essayer de souffrir pour sortir ça?
Oui, c'est
judéo-chrétienne,
ça.
Judéo-chrétienne, c'est pas mal ça, j'aime bien
ça. Ça nous castre énormément. Ça nous castre, ça nous empêche de... Je sais pas, le corps est tellement lourd et ce n'est que de la matière, c'est... Et il y a quelque chose dedans qui rêve d'autre chose, qui rêve de légèreté. Et si ce rêve existe, est-ce qu'il nous a été implanté par les contes ou est-ce qu'il nous a été... Je ne pense pas. Je pense qu'il est... Mmh. Il fait souffrir parce que c'est inatteignable.
Oui.
C'est pour ça que l'amour aussi est une frustration. On met tout sur quelqu'un et on s'aperçoit tout d'un coup que c'est un mammifère. Différent des autres.
Si, il y a des hommes parfaits, regarde en face de vous. Bon, on va faire une petite pause.
Les connus face à l'inconnu, tous les mercredis de 12h à 13h, avec Yves Cara.
C'était une plaisanterie, bien sûr. La perfection est tellement ennuyeuse, Armand. Alors, les connus face à l'inconnu. Alors, si vous voulez m'envoyer des mails, des messages, vous pouvez le faire, bien sûr, par Facebook, mais aussi sur le mail yves@bob-toutelavérité.fr. Je vous répondrai, proposer des invités, éventuellement, pourquoi pas. Hein. Bon, tout le monde n'est pas forcément apte à venir pour parler pendant une heure de sujets un petit peu inconnus dans les autres médias, mais il y en a qui sont plus ouverts que d'autres, donc n'hésitez pas. Il y a une personne, d'ailleurs, hein, qui est peut-être déjà venu il y a longtemps, à l'heure où vous écouterez peut-être cette émission. Vous le connaissez, vous le retrouvez sur France Télévisions et je suis certain que vous allez reconnaître sa voix.
Bonjour, c'est Nelson Montfort. Don't forget, retrouvez-moi dans l'émission Les Connus face à l'inconnu. All my love.
Nelson Montfort qui a vu des ovnis. C'est sûr, c'était en 97, il le dit, il ne doute absolument pas de ça. Il dit oui, j'en ai vu, arrêtons de dire que j'ai pu rêver ou autre. Il sait ce qu'il a vu, c'est passionnant tout ce qu'il a dit. Et le hasard, mais y a-t-il un hasard, a voulu que le jour où on a diffusé pour la première fois Nelson Montfort sur bob-toutelavérité.fr, il avait une page complète en quatrième de couve du journal L'Équipe, donc qui est lu par plusieurs millions de personnes. Allez, si ça peut, vous voyez, c'est le hasard qui parfois fait bien les choses.
Les connus face à l'inconnu, avec Yves Cara.
Le hasard peut donner un petit coup de pouce, un petit coup de chance. Vous êtes né, le 20 mai, signe du taureau. Vous avez déjà fait votre thème astral?
Oui, mais je ne crois pas trop en l'astrologie. Il faudrait qu'il soit astronome aussi. C'est-à-dire que l'astrologie est mouvante. D'ailleurs, dans les anciennes cathédrales, les dates sont moins fixes. Elles bougent, elles sont plus larges. Parce que en fait, on s'arrête toujours aux mêmes dates, mais aux mêmes heures. Mais le ciel dit autre chose. Les astres se déplacent différemment.
Oui, c'est vrai que l'astrologie a un ciel figé, alors que
en même temps, c'est des cailloux quand même dans l'espace à qui on a donné des noms comme Vénus, comme Mars, qui sont des dieux de la guerre, de l'amour. Donc on n'en sait rien. C'est peut-être un jour on découvrira une autre influence. En même temps, c'est vrai que regardez la Lune, on est fait d'eau, et comme la Lune influe sur les femmes, sur leur cycle ovarien, donc il y a sûrement quelque chose, mais peut-être pas celui qu'on a institué, qui ne bouge plus, qui...
Vous ne pensez pas quand même que dans les signes astrologiques, il y a
grandes lignes de caractère
des
qu'on
grandes
retrouve.
Lignes, peut-être, oui.
Donc forcément, il y a quand même quelque chose. C'est vrai qu'un Sagittaire est plutôt quelqu'un d'un petit peu idéaliste.
Il s'agite.
Il s'agite.
Avant de s'en servir.
Voilà. Il s'agite avant de s'en servir, c'est vrai. Un Bélier, quelqu'un de fonceur. Un Scorpion est très sensuel.
Enfin, y a des chance d'entendre ça, on finit par se modéliser sur...
Ah oui, peut-être aussi.
Se faire programmer.
Ouais, on se fait peut-être un petit peu programmer par tout ça, mais moi je ne crois pas. Donc pas jamais de signe. Vous avez jamais été voir quelqu'un qui vous a.
Si, j'ai ma copine Françoise Hardy qui m'a dit plein de trucs.
Ah, alors quoi par exemple? Tiens, qu'est-ce qu'elle vous a dit?
Elle dit déjà que j'ai pas le même ascendant parce que comme je suis née à Alais pendant la guerre, les Allemands avaient déjà changé l'heure, plus l'heure en avance par rapport à Greenwich parce que c'est un pays beaucoup plus à l'est.
Oui.
Enfin, voilà donc.
J'adore Françoise Hardy. Si elle voulait venir ici, ce serait génial.
Mais elle sort plus beaucoup.
Ah, quelle demande. Bon, on va aller la voir. On va enregistrer. Il faut. Donc, pas de signe astrologique. Alors, puisqu'on est dans les étoiles, on est dans les planètes, est-ce que vous croyez qu'on est seul dans l'univers?
Bon, non. Mais quelle arrogance de croire ça. Quand on voit juste notre univers, c'est une poussière par rapport aux autres multivers. Et nous, en plus, sur un petit truc, on est encore plus petit. Mais quelle arrogance de croire ça.
Ouais, surtout
je ne sais même pas, on est la puce de quel grand chat, je ne sais pas.
On est la puce de quel grand chat, c'est joli ça.
Mais oui, j'en sais rien, c'est tellement immense. J'ai mon cerveau qui est tellement petit, qu'il ne peut pas comprendre même ce que veut dire infini et qu'est-ce qu'il y a après et encore après. Donc on est, quand on lève la tête et qu'on regarde les étoiles, on est pris de vertige.
Puis on a tellement de témoignages, puisque vous êtes amis avec Egon, qui intervient souvent sur l'antenne pour parler des
ovnis. Egon, c'est quelqu'un de merveilleux.
C'est quelqu'un de merveilleux, nous sommes d'accord.
Il a une grande, grande culture.
Et quand on discute avec lui, il s'est intéressé aux ovnis parce que petit, son père était colonel de l'armée de l'air et que le soir, quand des amis pilotes venaient parler... comme ça, pour dîner, ils parlaient des objets un petit peu bizarres qui tournaient autour de leur avion alors qu'ils étaient à Mach 2, quoi, quand même.
Oui, non,
ils rêvaient pas, quoi. Ils étaient 2-3 pilotes, ils ont vu la même chose, mais ils n'osaient pas en parler. Donc, il a rien inventé, il a juste entendu des choses quand il était petit, à longueur d'année. Et forcément, on se dit qu'il y a quand même quelque chose, quoi. Le seul petit problème, c'est qu'ils n'osaient pas en parler à l'époque.
Voilà, c'est ça, parce qu'on a un petit peu dénigré ça, mais je pense que tous ces gens qui parlent sont pas fous. Et disent, moi je les crois.
Oui, en plus c'est des pilotes, on a des dizaines, des centaines des témoignages des centaines. On a même des journalistes sportifs, je vous l'ai dit, Nelson Montfort. C'est vrai en plus, passionnant. Oui. Alors qu'est-ce que j'ai aussi dans votre livre? Donc à la page 166, vous ne voulez pas nous dire qui vous a sauté dessus? C'est dommage.
Il n'était pas le seul.
Oui, mais celui-là.
Il m'a déçu.
Oui, il vous a beaucoup déçu. Ça, on le ressent dans le livre. Voilà. Vous avez une admiration sans bornes pour l'homme, pour l'artiste, et l'homme vous a déçu.
Oui.
On peut différencier les deux, d'ailleurs.
Oui, mais ça a continué à alimenter mon côté misandre.
Ouais, c'est ça. Oui. Quand on est une belle femme, souvent, on est un peu déçu. Déçu par les hommes.
Ça sert et ça dessert.
J'ai lu une belle phrase.
D'être une femme fantasmique, comme je pourrais dire, je ne sais pas si c'est belle ou. Mais une femme, à l'époque, on me reprochait d'avoir des trop grosses joues, trop grosses lèvres. Et puis maintenant, qu'est-ce que font les artistes? Ils se poussent pour avoir la même chose. Alors maintenant, celles qui sont d'origine, on les accuse d'être refaites. Ouais. Mais bon. C'est une sorte de. Je ne sais pas si c'est la beauté, mais c'est un truc fantasmique, ce que je dis. Donc voilà.
Maman, j'en reviens à ça, ne vous inquiétez pas de voir votre enfant dans la lune, laissez-le développer son imaginaire, il ne deviendra que plus créatif. Est-ce que votre fille est artiste aussi? Est-ce qu'elle a une perception différente? Elle est un petit peu fée, médium aussi?
Ma fille a été... Virginie a été engagée lorsqu'elle était étudiante. Elle avait un look un petit peu, elle parlait très bien anglais, elle a été engagée pendant les vacances chez Warner...
Warner Music, une maison de disques.
Voilà, pour être... comment ça s'appelle là, où il y a les filles qui ont le téléphone...
Attaché de presse?
Non, le téléphone... Standardiste,
d'accord.
Voilà. À l'entrée, et chaque fois qu'elle était en colère, parce que les gens lui faisaient une remarque ou quoi que ce soit, elle disait rien, mais le standard sautait.
Ah,
à un moment
voilà
donné, on lui a mis un tapis anti-électrique. Mais en même temps, elle avait déjà travaillé chez mon cousin Hannibal Altaï, qui avait les premières écoles... avec des énormes ordinateurs pour apprendre à fabriquer le cerveau d'un ordinateur. Mais c'était des armoires à l'époque. Et lorsque chez Warner, ils ont eu les premiers ordinateurs, il y avait quelqu'un qui savait s'en servir. Donc elle est rentrée comme secrétaire et puis elle est devenue la belle manager très vite à l'international.
Donc dans le domaine artistique.
Elle avait une oreille très développée, elle fait de la musique aussi, elle est prof de chant aussi.
Les chiens ne font pas des chats, de toute façon.
Voilà, mais mes frères et sœurs aussi, nous sommes tous très musiciens, tous chanteurs, dessinateurs, voilà, parce que personne n'a été castré.
Ouais, ça c'est beau.
Sur ce plan-là au moins, voilà.
Vous venez quand même de nous dire que vous avez une fille qui a un tel magnétisme, quelque part, que quand elle était en colère, elle faisait sauter le standard dans lequel elle travaillait. L'air de rien, là, quand même. Voilà. Vous nous avez juste raconté une petite histoire, comme ça. Ouais, elle s'énervait et paf, elle faisait sauter le truc. Vous rendez compte le pouvoir du cerveau, le pouvoir de l'esprit, la force d'un... Vous y croyez, à ce magnétisme?
Je l'ai vu. Je l'ai vu chez ma mère et chez ma fille.
Donc c'est même pas à croire, c'est à juste observer.
Voilà, c'est observer, voilà.
Et vous en avez souvent comme ça, des manifestations parce que vous nous racontez la nuit, vivez un peu dans...
Je reste à l'écoute.
C'est ça en fait, il faut être ouvert, il faut être à l'écoute. Il faut être attentif aux signes, c'est ça.
Mais vous avez plein d'artistes qui sont... Je vois Fellini par exemple, Fellini disait qu'il croyait beaucoup aux signes. Mm-hmm. Avant de faire un film, avant d'engager quelqu'un, il était comme ça, il regardait tout ce qui venait vers lui et...
Est-ce que la première impression est la bonne? Vous savez, le flash qu'on prend comme ça quand on rencontre quelqu'un.
Ouais. Ça arrive après, l'intellect vient, dit mais non, mais si, mais ça. Et puis mais si quand même à la fin.
Et souvent la première impression est la bonne.
Oui, il y a une d'alarme qui s'allume. On ne sait pas pourquoi.
Eh ben écoutez, c'est beau. Il nous reste 3 minutes d'émission. J'ai pas vu cette heure passer. C'est absolument incroyable. Qu'est-ce qu'on pourrait encore dire sur ces mondes de l'invisible? Comment vous le voyez évoluer, vous, ce monde des humains aujourd'hui? Est-ce que vous êtes confiant dans l'être humain en général? Est-ce que vous croyez qu'on va trouver des solutions aux problèmes que l'on crée finalement?
En ce moment, j'ai peur. Vous parliez de la peur encore tout à l'heure. J'ai peur. J'ai peur de cette éthique qui tombe partout, où les gens n'ont plus honte. Même quand on interviewe quelqu'un de jeune, il dit « Oh oui, mais moi, je pense que c'est de bonne guerre de faire ci et de faire ça ». Ils n'ont plus la même éthique. Ils sont effrayants. Personne n'a honte. Regardez, en ce moment, je ne veux pas faire de politique, mais tous les pourris qui puent, là, les gens, ça ne les dérange pas, ils revotent pour eux, ça ne les dérange pas, l'odeur du pourri.
Vous voulez dire que les politiques ont été corrompus? On peut le dire, comme les Balkany, les Tibéries, il y a plein de monde qui ont trempé dans des histoires, et à droite comme à gauche, toujours là.
Ils sont toujours là. Ouais. Bon, du côté gauche, je les vois moins. Moi, ça me révolte qu'ils aient aussi peu de honte. Et que les gens sont d'accord. C'est les gens qui votent qui me font peur.
Est-ce que c'est pas respecter la démocratie aussi? De leur donner le droit de choisir?
Oui, le droit, la démocratie, je m'arrêterai de l'être à un moment donné, parce qu'il y en a qui veulent avoir la liberté de supprimer la liberté. C'est ça qui est terrible.
Il y en a qui veulent avoir la liberté de supprimer la liberté. Il est interdit d'interdire, c'est un petit peu ça.
C'est un
peu dans l'esprit.
Voilà, on veut avoir la liberté de porter un voile, on veut avoir la liberté d'imposer une dictature.
C'est ça.
On se sert de la liberté pour ça. Le jour où, je sais pas, Hitler, il a été élu socialiste et tout, et voilà. Le jour où les gens seront tous pour voter le Front National, moi je sais ce que c'est, parce que mon père votait pour Tixier Vignancourt, donc je sais ce qu'il y a derrière, malgré tous les maquillages, où je pense que les gens sont beaucoup plus lucides qu'on ne croit, et qu'ils votent parce que la haine est plus facile que la négociation et les sentiments de tolérance. Le cerveau reptilien est là, et on s'adresse au cerveau reptilien des gens qui n'ont plus... On a fait en sorte que la droite soit décomplexée, mais avec ce cerveau reptilien, moi d'abord, les autres après. Donc moi, quelque part, si tout le monde se met... Je serai plus démocratique. Si tout le monde, démocratiquement parlant, votait pour quelqu'un qui ne l'est pas.
C'est le cerveau reptilien qui a parlé, parce qu'on fait appel au sentiment primaire de l'homme.
À l'égoïsme, à la haine qui est facile. C'est plus facile d'être haineux que d'être tolérant et négociateur.
C'est sûr, le choix de l'amour et de l'empathie et de la bienveillance est difficile. Et c'est une lutte quotidienne.
Vous voyez la télé-réalité qui fait appel à l'assidération, à l'assidération mal contrôlée, qu'on appelle la lifetime value, l'esprit vagabond et libre du cerveau pour absorber les pubs, tout ça... fait qu'on a affaire à une espèce d'intelligence qui baisse, quelque chose éthiquement parlant qui devient dangereux. J'aime pas. Voilà. Donc j'aime pas. Les forces en ce moment, je n'ai pas confiance. N'ai pas confiance en l'humain en ce moment.
On va faire en sorte, on est là tous ensemble pour essayer de faire réfléchir ce cerveau reptilien vers quelque chose de plus tolérant et bienveillant. C'est important. Pour en savoir plus sur Amanda.
Inch'Allah.
Inch'Allah. Pour en savoir plus sur Armand Daltaï, son site armanddaltaï.com, hein, on peut vous laisser des messages, voilà, on peut vous parler.
Sur ce site-là, il bouge pas beaucoup, mais on peut écouter ma musique, voilà, voir ce que j'ai fait. Hein. Sinon, je me suis mis sur Twitter.
Oui, sur voilà. Twitter. Et le 22 juin au Balajo, hein, avec.
22 juin au Balajo, je vous rencontre. Venez.
Et attends, Egon, qu'est-ce que tu veux? Viens, Egon. Hein? Il y a un disque. Le disque.
Ah oui, alors, je suis en train de faire un disque, effectivement.
Parce qu'Egon, il est là à nos côtés. Alors, en train de faire un disque. Qui sortira quand?
Je ne sais pas, je suis en train de le faire.
Bon, on l'annoncera sur Facebook, alors.
Voilà.
Évidemment, et sur le site. On suit nos artistes.
D'accord.
Merci mille fois, Armand Daltaï.
Mais c'est moi qui vous remercie.
Les connus face à l'inconnu. Tous les mercredis de 12h à 13h avec Yves Carrat.